artisans d'un autre monde.
Commerce équitable.
Équité.
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 Commerce équitable.
Solidarité.
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 Commerce équitable.
Égalité.
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 Commerce équitable.
Citoyenneté.
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 Artisans d'un autre monde.
Bonjour à tous. Au sommaire de notre émission de novembre, nous avons choisi de reparler du dossier miel, toujours d'actualité. Alors notez bien, la dégustation des nouveaux miels, ben, vous pouvez venir dans notre boutique. Ça continue, vous apprécierez, j'espère, et venez nombreux. Et à la fin de ce dossier, vous retrouverez notre agenda du mois raconté par Véronique.
Des ailes, elles ont des ailes. Qui sont-elles? Où vont-elles? Elles font la cire et le miel. Sortant de leurs alvéoles, les ouvrières s'envolent. Courageuses, elles reviennent, chargées de pollen. Qui sont-elles? Où vont-elles? Elles ont des ailes. Elles ont des ailes. Qui sont-elles? Où vont-elles? Elles font la cire et le miel. Quittant la ruche et la reine, elles butinent dans la plaine. De retour un peu plus tard, chargées de nectar.
Eh bien, chers auditeurs, je suis sûr que vous avez reconnu la chanson de Pierre Lozère, « Merci les abeilles ». Effectivement, aujourd'hui, ça va être notre thème, le miel et les abeilles. Mais pour vous en dire un petit peu plus, je passe la parole à Didier.
Ce qui suit est inspiré d'un texte intitulé, d'un article intitulé « Abeilles, une disparition programmée » paru le 28 août dernier dans le journal Le Monde. Dans cet article, le journaliste Stéphane Foucard décrit comment l'Union européenne se dérobe pour ne pas mettre en place une politique volontaire efficace pour lutter contre la disparition des abeilles. Il rappelle tout d'abord que le déclin du nombre d'insectes et d'abeilles coïncide avec l'introduction de nouveaux pesticides depuis quelques dizaines d'années. Ensuite, Stéphane Foucard décrit la lenteur et les freins mis en route dans l'Union européenne pour ralentir l'élaboration de nouvelles directives pour lutter contre ce déclin. Il fait référence en particulier au texte réglementaire adopté le 17 juillet 2019, qu'il présente, je le cite, « comme un texte lourd de conséquences pour l'avenir de la biodiversité sur le vieux continent ». Il explique aussi que ce texte réglementaire n'a pas tenu compte des avis des propres experts de l'Union européenne. On comprend comment le lobbying des industriels de l'agrochimie arrive à ralentir toute nouvelle disposition en faveur de la réduction et l'interdiction des molécules nocives pour les abeilles. Comment, par exemple, les résultats scientifiques sont tronqués par manque de paramètres d'études? Comment les coefficients qui permettent d'estimer les niveaux de risque sont modifiés? Comment ces études de risque ne sont évaluées que sur les abeilles domestiques et non pas sur tous les insectes pollinisateurs, etc., etc. On peut retrouver ces idées dans le livre de Stéphane Foucard « Et le monde devient silencieux », ouvrage également conseillé par l'apiculteur dans l'interview qui va suivre.
Pour notre dossier miel, nous recevons aujourd'hui Philippe Girard. Je vais lui poser quelques questions et je vais commencer par une petite présentation. Philippe, tu t'es occupé donc de ruches et d'abeilles. Même si tu n'as pas de ruches chez toi, enfin je sais que tu vas bientôt en avoir, tu t'es occupé de ruches dans quel cadre?
Alors, j'étais prof de SVT. Je suis en retraite depuis le mois de septembre, mais en étant prof de SVT au lycée Senghor à Évreux, j'ai permis qu'on installe une ruche dans ce lycée.
D'accord, oui.
Et donc je m'en suis occupé.
Et tu t'en es occupé pendant plusieurs années?
Oui, puisque on a cette ruche depuis 3 ans, je crois, à peu près 3 ans. Mmh.
Et pour t'occuper de cette ruche, tu as fait une formation particulière?
Oui, on avait reçu un apiculteur qui fait partie du syndicat d'apiculture de l'Eure, qui nous avait fortement conseillé de faire une formation. Et effectivement, j'ai fait une formation d'1 an pour être apiculteur.
D'accord. Donc tu es apiculteur.
On peut dire que je suis apiculteur. J'ai même, puisque j'avais installé la ruche du lycée et que j'en étais responsable, il faut se déclarer en tant qu'apiculteur et déclarer sa ruche. Donc j'ai mon numéro de NAPI qui est un numéro d'apiculteur.
D'accord.
Et... même si je n'ai pas de ruche actuellement.
Et d'où vient cette fascination pour les abeilles, pour la production du miel ?
Ah, ça fait très longtemps que je suis fasciné par les abeilles. J'ai eu une expérience quand j'étais jeune avec un apiculteur qui nous avait fait un peu l'accompagner pour du travail. Et je suis assez fasciné par ces petites bêtes. Et ça faisait longtemps que je me disais que je voulais devenir apiculteur. Mais bon, évidemment, avec le travail, c'est difficile, quoi. Faut trouver le temps. Et c'est l'installation de cette ruche au lycée a été un déclenchement. Je me suis dit, bon, allez, faut se lancer. Je vais faire la formation.
D'accord. Et donc, après quelques années au lycée, là, quel est ton bilan de ce travail au lycée ? Je suppose que tu as travaillé avec des élèves pour cette ruche.
Oui, alors c'est un peu un des problèmes, c'est que malheureusement, on n'a pas pu mobiliser beaucoup d'élèves, mais beaucoup de profs par contre, puis quelques élèves quand même. Et de toute façon, les élèves, quand ils viennent devant la ruche, alors il se trouve que cette ruche, elle est à l'intérieur d'une salle de classe et elle a des vitres transparentes. Donc on arrive à voir ça et les élèves sont toujours assez fascinés de regarder les abeilles. C'est vraiment un grand plaisir de voir leur plaisir à voir le travail des abeilles.
Alors, si tu veux, Philippe, on va passer maintenant à d'autres questions. Qu'est-ce que c'est qu'un miel bio ?
Alors, un miel bio, alors c'est vrai que ça c'est un problème délicat et on a du mal à comprendre comment, puisque les abeilles, elles vont où elles veulent, évidemment, et elles peuvent aller,
qu'on se pose, oui,
elles peuvent aller n'importe où. Alors, pour avoir un miel bio, il faut au moins deux conditions. C'est d'une part pouvoir prouver que ces abeilles vont butiner sur des champs qui ne sont pas des champs conventionnels, mais qui sont des champs, soit des champs bio, soit de la nature sauvage.
Alors,
et l'apiculteur doit fournir une carte d'état-major qui montre ça.
Je suppose que ça ne doit pas être toujours évident de prouver ça.
Si, on peut le faire. Alors, une abeille, elle butine, on dit qu'elle butine sur une surface avec un rayon de 3 km. Donc, on arrive à trouver des endroits où
D'accord.
il y a suffisamment soit de nature sauvage, soit de champs bio, sur un rayon de 3 km. Il y a une deuxième condition, c'est que les abeilles ont des maladies et des parasites. Le varroa, je ne sais pas si on en parlera, mais voilà, le varroa est un parasite de l'abeille. Et on doit traiter les abeilles contre ce varroa.
Oui.
Et il y a des traitements chimiques, bien sûr. Mmh. Évidemment, si on utilise un traitement chimique, eh bien, on ne peut pas avoir la certification bio.
D'accord. Oui. Alors justement, à propos des abeilles et des maladies, on parle bien sûr de la disparition progressive du nombre d'abeilles. Est-ce qu'on peut parler de disparition pour les années qui viennent pour les abeilles ? Le nombre diminue constamment, ce qu'on entend dans les médias partout. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ?
Alors, disparition, je ne sais pas, parce qu'évidemment, les apiculteurs, du coup... prennent des mesures et ils multiplient leur ruche et ils essayent de prendre des mesures pour lutter contre cet effondrement des abeilles. Il y a vraiment un effondrement. Il y a plein d'apiculteurs qui perdent des essaims, qui perdent des ruches, et beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Mais du coup, les apiculteurs refont des essaims et on va dire que moi, j'ai l'espoir que les abeilles ne disparaissent pas en France, quoi.
D'accord, oui. Et justement, dans la perte de la biodiversité, dont on entend parler continuellement, là, on dit que les abeilles sont des lanceurs d'alerte. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, quoi ?
Oui, tout à fait. Les abeilles sont des lanceurs d'alerte parce que cet effondrement... on va dire que les apiculteurs... dans les années 90 en France et dans les années 2000 en Amérique, se sont mis à dire « Attention, on perd beaucoup d'abeilles, on perd beaucoup d'abeilles ». Et c'est ce signal qui a été un des premiers. Mais en fait, cette disparition des abeilles, elle cache une disparition qui est bien plus importante, qui est celle des insectes. Il faut bien se dire que les abeilles, leur rôle, c'est de faire du miel, mais leur rôle beaucoup plus important, c'est de polliniser
bien
les
sûr.
Fleurs. Et il y a d'autres pollinisateurs, il y a des pollinisateurs sauvages. Et ces pollinisateurs sauvages, ainsi que tous les insectes, dégringolent. Il y a une étude en Allemagne qui montre que près de 80%, sur un site en Allemagne, 80% des insectes volants a disparu en 17 ans.
En 17 ans.
Ouais. C'est énorme.
Et est-ce que tu as des conseils de lecture ou des documents que pour...
Oui, absolument. Oui. Je vous conseillerais deux ouvrages. Un ouvrage tout récent qui est de Foucard. J'ai oublié son prénom.
Stéphane
Foucard, qui est un journaliste du Monde, qui vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Et le monde devint silencieux », où il dénonce cette catastrophe. J'ai parlé tout à l'heure de 90 et 2000. C'est les périodes où les insecticides néonicotinoïdes sont arrivés en France en 90 et en Amérique en 2000, et ils dénoncent cette catastrophe écologique qu'est l'arrivée de ces insecticides. Et ils dénoncent aussi les lobbies qui essayent de défendre et de prétendre qu'il y a d'autres causes de disparition des insectes, alors que la cause principale, c'est les insecticides. Et puis un deuxième ouvrage qui est beaucoup plus ancien, 1962, qui est, l'un des premiers, peut-être le premier ouvrage qui a alerté les gens. Ça s'appelle « Le printemps silencieux ». C'est de Rachel Carson. Et Rachel Carson, c'est donc une biologiste, une femme qui a permis que le DDT soit interdit dans le monde.
D'accord, oui. Alors, pour conclure, et puis pour rester un petit peu sur la même idée, comment combattre les dangers de l'utilisation de tous ces pesticides alors que la législation française, européenne, est plus que timorée contre l'interdiction de ces différents produits ?
Alors, je suis assez optimiste, et je vais même vous donner un conseil pour faire mieux que ça, pour faire mieux que défendre simplement les abeilles et les insectes, pour défendre toute la biodiversité. Je crois qu'il y a deux mesures que l'on peut prendre. C'est d'une part de manger bio, et d'autre part de manger moins de viande. Parce que si on fait ça, on aura moins de dégradation de l'environnement, on va faire moins de prélèvements de pêche, par exemple, ou d'élevage, et manger bio, bah, ça va forcément obliger les agriculteurs, avec qui on doit travailler, hein. Les agriculteurs, ce sont nos amis, ce sont ceux qui nourrissent le monde, mais il faut leur donner, il faut que les pouvoirs publics comprennent que le consommateur, lui, il a choisi le bio, et qu'il n'y a plus que ça qu'on peut faire.
Eh bien, Philippe, merci beaucoup pour toutes ces informations, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci pour ton intervention.
Merci à vous et merci de votre engagement envers la nature.
Merci, Philippe.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, m'égare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, monte, poursuivi par tous les bourdons.
ça va être sa fête.
C'est celui qui la rattrapera, qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après, il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille, ah. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, là, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
Merci Bourville pour cette gentille petite chanson sur les abeilles. Mais comment parler du miel sans aborder ses bienfaits sur la santé ? Attention, je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous faire un cours de médecine, d'ailleurs, j'en serais vraiment incapable, mais juste vous présenter quelques propriétés qui peuvent éventuellement vous donner envie d'en manger. Tout d'abord, je souhaiterais commencer cette rubrique avec un extrait du livre de Christian Jacques, Le juge d'Égypte, son volume 1. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'histoire d'un jeune juge de Paser qui est amoureux d'une très jolie femme, Néferet, qui est médecin, qui vient d'être nommée responsable d'une infirmerie militaire. Extrait. Néferet traita les cas de diarrhée et de dysenterie les plus aigus avec un clistère consommé de miel, de mucilage fermenté, de bière douce et de sel qu'elle injecta dans l'anus avec une corne en cuivre dont l'extrémité la plus fine avait la forme d'un bec. 5 jours de soins intensifs donnèrent d'excellents résultats. Lait de vache et miel, seul aliment autorisé, achevèrent de remettre les malades sur pied. À travers cet extrait, nous constatons que le miel est utilisé depuis la nuit des temps. En effet, du temps des pharaons, il était utilisé lors des mariages, d'où la fameuse lune de miel. Selon la mythologie égyptienne, les abeilles sont les larmes de Ra, le dieu du soleil, et le miel est donc un produit divin utilisé dans de nombreuses médications. Savez-vous que durant la Première Guerre mondiale, le miel était utilisé au sein des tranchées pour soigner les blessures des soldats afin d'accélérer leur cicatrisation ? Comme le disait Victor Hugo, la vie est une fleur, l'amour en est le miel. Et cette maxime montre bien à quel point le miel est un aliment aux multiples vertus, que ce soit pour la santé, en cosmétique ou en alimentaire. Effectivement, il est bien connu pour ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Nous constatons d'ailleurs que de plus en plus d'hôpitaux voient leurs médecins utiliser le miel comme pansement des plaies, à l'instar des médecins de l'Antiquité, en cas de brûlure ou de plaie chirurgicale difficile à cicatriser. Cette pratique se retrouve essentiellement aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Le premier médecin en France à l'utiliser pour faire des pansements est le professeur Bernard de Cotte, chef du service de chirurgie viscérale et des transplantations à Limoges. Décédé aujourd'hui, il a depuis longtemps démontré l'efficacité du miel dans la cicatrisation des plaies qui l'accélèrent. En 2008, dans le magazine de la Santé, ce professeur apportait les informations suivantes. Le miel est un produit éminemment riche en de multiples éléments. Sucre nécessaire au métabolisme cellulaire, vitamines stimulantes, pH acide détergent et s'opposant à la prolifération microbienne. Et tout ceci fait qu'on a un véritable effet de booster sur la prolifération cellulaire et que progressivement, on a une cicatrisation, même sur un terrain très fragilisé, beaucoup plus rapide qu'avec les autres produits. Cependant, les services hospitaliers employant le miel restent rares en France. Un bon exemple est le service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Les résultats sont toujours concluants. De même, certains services de cancérologie utilisent le miel pour atténuer les effets secondaires sur la peau et les muqueuses de la radiothérapie à la chimiothérapie. De nombreuses études ont confirmé l'action thérapeutique du miel, aux effets antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisants. Et pour terminer ce voyage un peu mielleux, voyons quelles sont les propriétés thérapeutiques de deux miels vendus dans notre boutique d'artisans du monde, place de l'Hôtel de Ville. Le miel et le curcuma. L'association du curcuma au miel d'abeille, également connue sous le nom de miel d'or, est un remède naturel aux puissantes qualités anti-inflammatoires et antibactériennes qui favorisent les défenses de l'organisme. Considéré également comme un puissant antibiotique naturel, ce mélange détruit plusieurs types de virus et de bactéries qui sont à l'origine des maladies. Son avantage sur les remèdes synthétiques est qu'il n'a pas d'effet négatif sur la flore intestinale, bien au contraire, puisqu'il lui sert d'aliment pour augmenter la présence de bactéries saines. Le miel et la cannelle. Le mélange de cannelle et de miel consommé quotidiennement offre bien des avantages pour la santé. Il fait perdre du poids, il augmente les défenses immunitaires, le mélange de cannelle et de miel soigne et soulage les affections de la gorge, il améliore l'état des articulations grâce à ses propriétés calorifiques et antioxydants, il diminue le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires, et ce remède, attention, stimule la libido. Il améliore la digestion et combat l'acidité gastrique. Voilà, c'était la rubrique « Le miel et ses bienfaits ». J'espère que vous avez entendu beaucoup d'informations qui maintenant vont vous intéresser. À bientôt.
Ces miels sont en vente dans notre boutique. Ils proviennent de deux coopératives d'Amérique latine, le Mexique, l'Argentine. C'est Copsol et Mieles del Sur. Nos miels sont soit purs, soit miel cannelle, ou miel curcuma, ou miel gingembre. Et puis, un autre produit fait son apparition, le Touronne amande miel. Venez les déguster.
Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent.
Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures?
La Terre en aura le bonheur, point, c'est tout.
Aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent.
Je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elle jaillisse les eaux sur votre espèce. N'aurai plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer, plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie.
Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. Voici tout.
Eh bien, vous venez d'entendre Ridan, Objectif Terre.
Donc, à notre agenda, tout d'abord un rappel. Depuis le 16 novembre jusqu'à la fin du mois de décembre, pour tous les paniers supérieurs à 15 euros, distribution de bons de réduction de 10% qui seront valables au mois de janvier sur tout l'artisanat hors article soldé et artisanat CAP. Ce sont les statues en bronze qui viennent d'une association qui s'appelle CAP Développement, qui vient du Havre, que nous avons en dépôt vente. Après, le 6 décembre, vendredi 18h30, rassemblement des coquelicots devant la mairie. C'est la Saint-Nicolas, donc a priori il est prévu du vin chaud et des gâteaux. Venez nombreux. Le groupe éducation, au mois de décembre, se déplace à l'école Victor Hugo de Conches, fait trois interventions le 13 décembre en CM1 et en CM2 sur le thème « Consommer autrement ». Le 14 décembre, le retour du Père Noël équitable, quand Noël rime avec équitable. Donc notre Père Noël se promènera dans les rues d'Évreux avec ses lutins. Il y aura une distribution de friandises aux petits et aux grands et on invitera les gens à venir à la boutique déguster du vin chaud, café, thé. Voilà. Il y a des ventes extérieures, forcément, au mois de décembre. Dans une grande entreprise d'Évreux, à la Chambre des métiers, à Gisors, le marché de Noël qui est organisé par ATTAC. Nous avons toujours des ventes dans les AMAP et dans les conciergeries autour d'Évreux. Qui dit décembre dit ouverture exceptionnelle. Donc, le dimanche 15 décembre, le dimanche 22 décembre et le lundi 23 décembre, la boutique sera ouverte de 11h à 18h. Le mardi 24 décembre, on ouvrira à 11h. A priori, ça fermera à 14h, sauf si les bénévoles sont courageux. Voilà, c'est tout. Joyeux Noël à tous.
Partisans du Monde sur 102.4, c'est une nouvelle émission chaque dernier samedi du mois à 11h. Et quand vous voulez, toutes nos émissions précédentes en podcast sur principeactif.net.